Bonjour à tous, bienvenue sur Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bougent. Je suis Victoria et toutes les semaines, je vous donne rendez-vous pour un concentré d'actu chrétienne des diocèses de Bayeux-Lisieux et de Coutances. Au sommaire de cette actu, nous retrouverons le témoignage de Pascal Gérard, futur diacre permanent.
L'actu.
Le pèlerinage des confirmés à Rome a pris le départ samedi 21 octobre au matin. 230 jeunes et 50 accompagnants ont pris la route pour Rome assise. Au programme, 7 jours de pèlerinage, en compagnie de Monseigneur Boulanger, au cœur de la chrétienté. Vitamine C a bravé le froid pour vous samedi matin, afin de rencontrer ces jeunes.
Je vais te demander ton nom et ton âge, s'il te plaît.
Je m'appelle Arthur Devince, j'ai 15 ans.
Alors, je m'appelle Laure, j'ai 16 ans.
D'accord, c'est ton premier pèlerinage ?
Non, j'étais à Lourdes et à Fatima.
Oui, c'est mon premier pèlerinage, oui.
Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes dans le pèlerinage ?
De pouvoir se retrouver tout seul, partager des moments de communion, pouvoir penser, pour pouvoir prier.
Je m'attends à être avec les autres, ouais, partager des choses fortes. Non, tous ensemble, vraiment, ouais, en groupe et tout, et quelque chose de beau, quoi, en équipe.
Alors, on a de moins en moins de jeunes qui font ces démarches-là, qui vont jusqu'à leur confirmation. Est-ce que pour toi, ça change quelque chose dans ta vie chrétienne ? Est-ce que tu te sens plus investi ou est-ce que tu veux faire plus d'efforts ? Comment ça se concrétise pour toi, ta confirmation ?
Ouais, c'est important. Il y a de moins en moins de personnes. Bah, on sent qu'on est utile en faisant des choses, c'est très important. Personnellement, et moi, je me sens utile en faisant ça.
Je pense que j'aimerais bien m'investir plus justement avec les autres, aider les autres, vraiment être plus en relation avec les personnes. C'est ce que je souhaite.
Écoute, je te souhaite un très bon pèlerinage.
Ce pèlerinage, c'est l'occasion pour eux de découvrir l'universalité de l'Église en rencontrant des pèlerins venus des quatre coins du globe. Monseigneur Jean-Claude Boulanger était sur RCF pour transmettre un message à nos jeunes confirmés.
Dire un très grand merci à tous ces jeunes qui vont participer au pèlerinage de Rome assise pendant une semaine. Je ne peux que les féliciter. Ce sera pour eux non seulement une découverte, mais aussi un temps fort spirituel et fraternel. Ils auront l'occasion de découvrir aussi l'Église qui est présente dans son histoire, puisque nous marcherons sur les pas des premiers chrétiens, et en même temps nous découvrirons des grandes figures de l'Église, Saint François d'Assise, mais aussi une figure actuelle qui est celle du pape François. En même temps, je tiens à remercier aussi tous les adultes, presque une cinquantaine, qui les accompagnent non seulement dans leur paroisse habituellement, mais aussi qui vont les retrouver durant tout ce pèlerinage. Moi-même, je serai présent avec eux. C'est toujours une joie de marcher avec eux dans les rues de Rome et surtout de les écouter, de participer à leur joie. Et en même temps, je demande bien sûr au Seigneur de bénir ce pèlerinage et dans la joie de les retrouver.
Le 28 octobre aura lieu à la cathédrale de Coutances l'ordination diaconale de deux personnes. Un diacre se définit comme un homme marié ou célibataire qui répond à un appel de l'Église catholique. Par sa présence, il aide les baptisés à vivre le service de Dieu. Nous recevons Pascal Gérard, futur diacre permanent, marié depuis 20 ans et père de 3 enfants, pour parler de son parcours. Bonjour Pascal Gérard.
Bonjour.
J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours, mais également sur vos motivations, les motivations qui vous font devenir diacre ce dimanche.
Alors, je ne parlerai pas de motivation première à devenir diacre. C'est plutôt un appel de l'Église qui m'a été fait et qui s'enracine dans un discernement personnel et avec une équipe d'accompagnement. Il est important de préciser que cet appel s'est fait pour notre couple et pas à moi tout seul. Car c'est bien sûr la grâce du sacrement de mariage que s'appuiera ce ministère diaconal. Pour moi, le oui n'a pas été d'une évidence. Il m'a fallu du temps avant de ressentir que le Seigneur m'appelait, sans doute à découvrir ce chemin vers le diaconat. Alors j'acceptais de laisser Dieu faire irruption dans ma vie. Et par son amour, il vient donner une nouvelle orientation à mon existence, à celle de mon couple et à celle de notre famille. Voilà, cet appel pour moi au diaconat permanent ne tient pas à ma propre volonté, ni à mes actes, mais bien à la seule volonté de Dieu.
Vous avez 3 enfants, vous êtes marié. Est-ce que votre ministère va changer quelque chose dans votre relation spirituelle que vous avez avec vos enfants et votre femme ?
Alors, c'est vrai qu'il y a un changement qui s'est déjà opéré, mais qui va se poursuivre. C'était, je dirais, aussi une crainte d'un des enfants de dire « Oui, mais papa, tu ne seras pas beaucoup là, tu seras moins présent. » C'est vrai que le ministère va me donner aussi certaines obligations. Et en même temps, je fais confiance aussi à la grâce parce que dans ce temps d'absence aussi, je me dis le Seigneur sera là aussi pour combler aussi quelque part ce manque.
Vous avez eu le temps de vous y préparer puisque c'est 3 ans de préparation.
Par rapport à ça, moi je reprendrai quand même une phrase d'un évêque qui avait dit que par rapport à la mission d'un diacre, mais tout d'abord, un bon diacre est avant tout un bon père de famille. Je pense que si l'on veut aussi que les enfants acceptent bien aussi ce nouvel engagement, c'est aussi de se rendre disponible pour eux lorsqu'il y a besoin.
Quel diacre souhaiteriez-vous devenir ?
Oui, je souhaiterais être un diacre qui reconnaît dans l'être de chacun, dans le cœur de chacun, en fait, la présence de Dieu vis-à-vis de la famille. Le fait d'être tourné vers les autres m'oblige aussi à être attentif avant tout à ma famille qui aura besoin aussi autant de moi qu'aujourd'hui, malgré un manque de disponibilité. Donc c'est vrai que le fait d'être tourné vers les autres ne doit pas me faire oublier que ma famille est aussi primordiale dans ce cheminement.
Merci d'avoir été avec nous sur Vitamine C. C'est bientôt la Toussaint, fête au cours de laquelle nous honorons tous les saints de l'Église. En France, existe une tradition remise au goût du jour dans les années 2000 par un prêtre de la paroisse Saint-Philippe-du-Roule qui souhaitait donner à la Toussaint son gâteau pour faire redécouvrir le sens joyeux de cette fête. Vous pouvez faire votre propre gâteau de la Toussaint en trouvant des recettes sur le net ou en suivant celle-ci. Battez 3 blancs d'œufs en neige, mélangez 150 g de poudre de noisette, 140 g de beurre fondu et de sucre et 80 g de farine. Ajoutez ensuite les blancs en neige délicatement à la préparation. Versez la pâte dans un moule beurré et faites cuire au four 30 minutes, thermostat 6. Vous pouvez rajouter un glaçage ou, comme moi, des tonnes de pépites de chocolat. Mais si vous voulez le gâteau original, le seul, le vrai, l'unique, les bénédictines de Bayeux font chaque année une centaine de gâteaux de la Toussaint qu'elles vendent dans la boutique du monastère de Bayeux. C'est un vrai régal, alors n'hésitez pas.
Vous aimez vraiment beaucoup les gâteaux, Victoria.
Chut, les auditeurs ne s'en sont peut-être pas rendus compte.
Si, je pense que vous êtes grillés, ils s'en sont aperçus.
Écoutez, avant de passer à autre chose, j'ai un message à vous transmettre de la part des bénédictines de Bayeux. La messe de ce dimanche au monastère des bénédictines sera célébrée à 11h et non à 9h30. Toute l'actu de l'aumônerie étudiante est à retrouver chaque semaine avec notre correspondante Kitri Brosseau. Bonjour Kitri.
Bonjour Victoria.
Tout va bien aujourd'hui ?
Très très bien, oui.
Alors on va parler de l'actu de l'aumônerie étudiante. Qu'est-ce qui se passe cette semaine ?
Alors cette semaine à l'aumônerie étudiante, c'est les vacances. Donc du coup il n'y aura pas de messe mercredi. En revanche du coup je vais en profiter pour vous parler des petites activités qui font partie de l'aumônerie depuis cette année. Donc il y a tout d'abord le bir théologique qui a été lancé.
Bir, genre bière ?
Bir, une bière, c'est tout à fait ça. Donc en fait il s'agit de se retrouver une fois par mois, le mardi de 18h30 à 19h30. La prochaine fois c'est le 6 novembre, donc on vous attend nombreux. Et en fait d'échanger autour d'une question à chaque fois. Donc il y a
Et d'une bière.
Et d'une bière, surtout. Et d'une bière, c'est très important. C'est très important, donc du coup, ça permet d'échanger dans un lieu ordinaire, en fait, et de sortir un peu du cadre de l'aumônerie aussi, et donc d'aller, comme le pape François nous l'invitait au JMJ, d'aller aux périphéries aussi. Donc ça se passe au Bercail, c'est une fois par mois, et n'hésitez pas à suivre la page Facebook de l'aumônerie pour savoir quels seront les prochains rendez-vous.
Est-ce qu'on peut faire autre chose que boire une bière ?
Alors, si vous êtes fan de foot... Pour rester dans l'élan de cette victoire à la Coupe du Monde, vous pouvez faire du foot spirituel. Alors c'est tous les mardis à 17h30, donc devant l'abbaye aux Dames. Et il s'agit de prendre un petit temps de prière et après d'aller tous jouer au foot ensemble. Donc comme le bir théologique, c'est un moyen de vivre sa foi au travers d'une activité qui est plus ordinaire et qui est plus abordable pour tous.
Écoutez, merci beaucoup Kitri, et bien on se retrouve au bir théologique alors.
Avec plaisir, bonne semaine.
Idée de sortie.
Vous l'avez entendu partout, télévision, info et peut-être même de la part de votre voisin, mais nous changeons d'heure et vous pouvez compter sur moi pour en rajouter une couche. En lien avec ce changement d'heure, les sanctuaires en France proposent le 27 octobre la 25e heure sur le thème de la lumière. À Lisieux, à 20h25, les cloches du sanctuaire vont sonner. Rassemblez-vous à ce moment-là à l'office du tourisme pour une déambulation aux lanternes sur le site de la basilique pour un parcours de 5 scénettes sur des moments clés de la vie de Sainte Thérèse retracés par des ombres chinoises sur fond musical. Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur le site du sanctuaire de Lisieux.
La minute Saint-Hildegarde.
C'est la minute Saint-Hildegarde avec Anne-Marie Profit. L'occasion pour vous de découvrir cette sainte qui fêtera bientôt son 920e anniversaire.
Alors c'est bien souvent par cet aspect que les personnes connaissent Hildegarde, mais c'est aussi l'aspect le plus dangereux et celui qui peut faire fuir. En effet, bien des adeptes se disent ou se révèlent être des puristes d'Hildegarde, sans beaucoup de tolérance, ce qui conduit même à des dérives. Or, Hildegarde n'a jamais parlé de régime, quitte à vous décevoir, le régime hildegardien n'existe pas. Dans ses livres dits de médecine, le Physica et le Causae et Quorae dont nous avons déjà parlé, Hildegarde commente les aliments en fonction de leur nature, chaude ou froide, sèche ou humide. Mais elle développe surtout 3 notions particulières. La subtilité, qui est la force curative contenue dans les aliments, la viridité, c'est-à-dire la force de vie qu'il contient, et enfin la discrétio, c'est-à-dire la juste mesure. Ces conseils alimentaires prennent aussi leur source dans la règle bénédictine, où des chapitres sont consacrés au boire et au manger, ainsi qu'au sommeil et au travail, mais aussi à la prière. On voit donc tout de suite que c'est un moyen de prendre soin de son corps, temple de l'Esprit-Saint. On retrouve très vite cette notion d'harmonie corps-âme-esprit si chère à Hildegarde. Les recommandations alimentaires d'Hildegarde n'ont qu'un seul but, c'est créer les conditions d'une meilleure disponibilité à Dieu et à sa loi d'amour. En effet, si on parle de l'alimentation de la joie chez Hildegarde, c'est pour amener à un choix d'aliments, plantes, herbes, qui vont contribuer à maintenir ou à restaurer la santé en combattant la tristesse, en combattant la mélancolie, source de maladies du corps et de l'âme. Or, cultiver la joie, si elle est gage de longévité, n'est pas le masque du sourire ni les plaisirs de la vie qui ont cependant leur importance. Hildegarde va bien au-delà. Elle nous entraîne sur le chemin de la joie profonde, une joie céleste que nous sommes capables d'accueillir dans nos vies comme fruit de l'Esprit-Saint. Ce n'est donc pas un régime ni une philosophie de la positive attitude, mais bien au-delà. C'est en choisissant une nourriture harmonieuse qui allège notre corps et élève notre âme que nous pouvons entrer dans une louange qui nous met en état de recevoir la grâce divine. C'est en fait la joie des béatitudes.
Cette semaine, on découvre les plantes aromatiques. Fred, quand vous cuisinez, est-ce que vous aimez utiliser des aromates ?
Ça m'arrive, je ne suis pas un très bon cuistot, mais quand je fais du barbecue, par exemple, je mets du thym, ou si je fais des pâtes, je mets du basilic, et dans mon guacamole, je mets de la coriandre.
Ah, mais écoutez, on va voir si Anne-Marie Profi peut vous donner quelques conseils.
Dans la préface de son livre des plantes, Hildegarde nous parle de plantes bénies, qui nous sont offertes pour notre santé physique, psychique et spirituelle, grâce à leur subtilité, c'est-à-dire leur force curative. Hildegarde nous indique aussi les plantes inutiles, voire nocives pour l'être humain, mais qui préparées d'une certaine manière seront de remarquables remèdes. Par exemple, le cerfeuil, dont Hildegarde écrira « Il n'est bon à manger ni cru ni cuit, mais il est utile pour certains médicaments et soigne les blessures des ulcères. » Ou encore l'échalote, « Pas bonne à manger pour le bien portant ni pour le malade. Si on veut cependant en manger, il faut en mettre un peu dans du vin pour l'adoucir. » Mais ce sont les plantes de la joie qui vont retenir notre attention aujourd'hui, avec quelques exemples. L'anthémis, véritable panacée scientifiquement prouvée aujourd'hui. Hildegarde nous dit qu'elle diminue dans le sang les substances nuisibles, augmente le bon sang et assure un esprit clair. Elle chasse la maladie et empêche de tomber malade. Elle est connue sous le nom de pyrèthre d'Afrique, notamment utilisée dans le paludisme. Hildegarde recommande aussi les menthes, spécialement la menthe pulio, mais toutes sortes de menthes, qui ont des propriétés digestives. L'hysope, toujours cuite, qui purifie le foie, chasse la tristesse s'il est mangé avec des viandes. Elle nous parle du serpolet et de ses bienfaits pour les problèmes de peau. Elle conseille de manger le persil cru, l'ortie cuite, qui purge l'estomac et en fait disparaître les humeurs. À cela, ajoutons quelques épices incontournables chez Hildegarde, dont le galanga, dont elle dit qu'il est une panacée pour tous ceux qui souffrent du cœur. Il a beaucoup de vertus. Le cumin, utile et sain à manger, de quelque façon que ce soit, mais il fait du mal à celui qui souffre du cœur ou est en mauvaise santé. Le cumin est à manger avec le fromage pour ceux qui ont du mal à le digérer. Et enfin le psyllium, graine du plantain lancéolé qui réjouit l'esprit, ramène à la santé, donne de la vigueur, purifie le sang. On en met une cuillère à café sur les aliments, mais il faut bien boire après car il gonfle. Il opère un nettoyage en douceur des intestins. Nous parlerons en décembre spécialement des trois épices de la joie, cannelle, muscade et girofle, un vrai feu d'artifice.
Merci Anne-Marie Profi, je le rappelle, vous êtes cadre infirmier, conseillère spécialisée en santé, selon Saint-Hildegarde de Bingen. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec elle, contactez-la au 06 62 54 11 02. Vous retrouverez Anne-Marie Profi chaque semaine pour des conseils hildegardiens.
Les rendez-vous de la semaine prochaine.
La semaine prochaine, Christianisme intérieur propose trois soirées sur le thème « Recherche de Dieu et engagement dans la cité ». Trois conférences seront données de mardi à jeudi tous les soirs à 20h au Centre d'études théologiques de Caen. Vous trouverez plus d'informations sur le site internet Christianisme intérieur Caen. La semaine prochaine, Vitamine C part à votre rencontre à l'occasion de la Toussaint pour découvrir qui sont vos saints préférés. On mènera notre petite enquête et on en parle la semaine prochaine.
Et vous, Victoria d'ailleurs, quel est votre saint préféré ?
Promis Fred, je vous le dis la semaine prochaine. Si vous avez un témoignage à partager, que vous êtes investi ou que vous voulez faire connaître l'actu de votre paroisse, vous pouvez nous contacter par mail sur vitaminec1450@rcf.fr. N'oubliez pas, sans vous, il n'y a pas d'actu. Alors donnez de la voix sur Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bougent. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un concentré de bonnes nouvelles sur Vitamine C. Merci Fred et bonne journée à tous.